Ok, donc bonjour à tous. On va poursuivre notre cours sur les électrolytes et l'importance des additifs dans la composition, je dirais, des ingrédients qu'on va mettre soit dans les batteries, soit dans les supercondensateurs. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous mentionner d'autres classes d'additifs pour la sécurité de l'accumulateur, mais également des électrolytes, je dirais, nettement plus sophistiqués, comme les liquides ioniques, l'hydrogel, et voir même à la fin, je terminerai sur un autre type d'électrolyte qui vient juste d'apparaître dans la recherche de la communauté scientifique, qui sont les gaz liquéfiés comme électrolytes. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est, je vous ai montré finalement, qu'on a vu des additifs, voilà, des additifs pour combattre certaines difficultés de la SEI. Et on avait montré comment on pouvait faire des électrolytes pour la participation anodique-cathodique. On avait vu comment on pouvait faire un mouillage, meilleur mouillage séparateur. On avait également décrit certains additifs pour capturer les composants irrésérables. Et à la fin de cette leçon, je vous avais montré que finalement, tout ça, c'est quand même une recherche assez empirique, avec certainement des essais et des erreurs, avec aussi de la robotique pour finalement généraliser ces différents tests. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est plutôt m'attarder sur un autre type d'électrolyte ou d'additif qui va être utilisé pour la protection, je dirais, en surcharge ou en surdécharge des accumulateurs et des additifs électrolytes pour l'ignifugation. Alors on va commencer cela tout d'abord en regardant ce qui se passe au niveau de ces additifs pour la surcharge. Alors vous connaissez tous, vous avez entendu parler que dans certains accumulateurs, il y a bien sûr certains risques d'explosion, de prise en feu, comme vous pouvez voir ici sur quelques exemples. Mais les craintes, il n'y en a pas beaucoup, car c'est les photos que vous allez trouver sur le net, et elles reviennent sans arrêt. Par contre, on va voir finalement comment on peut agir sur ces différentes, cette problématique. Alors on va avoir deux approches, si je peux dire. La première approche va être tout simplement les navettes redox. Je vous ai montré ce que c'est, elles peuvent être organiques ou inorganiques. Et ensuite, on va voir d'autres additifs que j'appellerai les additifs de coupure. Ces additifs qui, simplement, en fonction du potentiel, vont se déclencher et vont couper le circuit. Alors finalement, pourquoi ces additifs? Pourquoi ces problèmes d'autodécharge, de surdécharge, et ainsi de suite? Bien, j'ai essayé de vous expliquer ça très simplement. Si vous prenez, par exemple, une lampe de poche dans laquelle vous avez un courant, vous avez trois batteries en série, le courant sera toujours le même dans chacune des batteries. Par contre, vous ne contrôlez pas le potentiel. Ce qui fait que finalement, si lorsque vous commencez à décharger une batterie et dans un état de santé ou un état de charge relativement faible, eh bien celle-ci va tout simplement se décharger et elle peut passer en surdécharge. Donc par conséquent, il faut la contrôler. Et on va faire ça via ce que j'appellerais une navette redox. La même chose qui va se passer en surcharge, où là aussi, eh bien on peut avoir les mêmes problèmes lorsqu'on va être en surcharge, où il va falloir une navette redox. Alors théoriquement, c'est une navette redox, donc je vous avais quand même mentionné un peu l'an dernier dans les cas du système lithium-soufre, eh bien, je vais vous décrire très clairement aujourd'hui, j'espère, comment cela fonctionne. Alors comment cela fonctionne? Eh bien, vous avez votre accumulateur, comme indiqué ici, avec votre électrode positive et votre électrode négative. Vous avez votre électrolyte, qui va être un électrolyte classique, et on va ajouter un fameux additif. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est que dans ce cas, je vais ajouter une molécule qui va tout simplement s'oxyder. Cette molécule va s'oxyder une fois que vous aurez directement oxydé votre matériau d'électrode positive. Si vous avez votre redox pour l'électrode positive, eh bien, cette molécule organique va s'oxyder à plus haut potentiel, ce qui fait que finalement, lorsque vous allez fournir du courant à votre accumulateur, eh bien, il va être utilisé pour l'oxydation de cette molécule. Et ça va directement vous créer une molécule oxydée, comme vous pouvez voir ici, avec un électron. Et cette molécule, eh bien, elle va tout simplement migrer vers l'électrode négative. Donc voilà, si vous voulez, ce que c'est qu'une navette redox. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention ici? C'est que lorsque vous allez directement injecter ce courant, bien automatiquement, cette énergie, elle n'est pas consommée dans le circuit extérieur, elle va être consommée à l'intérieur de votre accumulateur, ce qui va générer directement de la chaleur. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette chaleur dans ce système. Alors, comment tout ça est réglé? Bien, une simple formule qui va vous dire directement la quantité de courant que vous pouvez passer dans cet accumulateur. Et cette formule, elle est indiquée ici, elle est relativement simple. N, bien sûr, c'est le nombre directement, le lithium, c'est plus 1. A, c'est la surface, C, c'est la concentration de ces espèces. D, c'est la diffusion. F, bien sûr, vous connaissez tous, c'est le Faraday. Et L va être la distance entre deux électrodes. Alors, si on prend finalement des chiffres, et on donne ici des chiffres comme indiqué ici, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'on peut avoir des courants aux environs de 2 mA par centimètre carré. Okay. Et si vous travaillez à des régimes de C ou C sur 2, eh bien, ça veut dire que ces espèces vont faire une boucle complète en 30 secondes. Et ça, bien sûr, il faudra faire attention, c'est qu'on ne pourra pas l'utiliser pour des systèmes où il vous faut des grosses quantités de courant, pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez avoir des montées en température, je dirais, considérables. Pour un C sur 2, vous avez une augmentée à température de 40 degrés C, et si vous allez à des régimes de 2C ou 3C, vous pouvez directement atteindre 100, 120 degrés C. Et on verra ça par la suite. Alors bien sûr, pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir dessiner des molécules organiques qui vont avoir un potentiel supérieur à peu près de 400 millivolts par rapport à votre potentiel redox de votre matériau d'électrode positive. Et vous savez que les matériaux d'électrode positive, mis à part lithium FePO4, qu'on verra par la suite, vont directement opérer à des potentiels de 4 à 4,3 volts. Ça veut dire qu'il vous faut une molécule organique qui va pouvoir s'oxyder réversiblement à 4,7-4,8 volts. Et ça, je dirais, c'est pratiquement impossible. C'est la raison pour laquelle on va travailler sur des systèmes qui sont relativement modérés, notamment lithium FePO4. Et on va retomber dans la même systématique que l'autre jour, c'est quelles sont les molécules organiques qu'on peut utiliser. Et bien pour ce faire, ici, je vous ai montré différents tests qui ont été bien sûr guidés par des calculs DFT, de façon à déterminer les potentiels redox de ces molécules. Vous avez ici le nombre de molécules qui ont été utilisées, et vous pouvez voir ici le nombre de cycles. Mais parmi ces 20, je dirais, molécules qui ont été étudiées, vous apercevez finalement qu'à la fin, par le criblage, il y en a seulement 2 ou 3, et même une qui est la verte, qui va directement être capable de soutenir plus de 200 surcharges sur décharge. Et cette molécule qu'on peut voir ici, c'est du dithiertiobutyl diméthoxybenzène, avec les centres redox qui sont les deux oxygènes. Et bien, c'est ce genre de molécules qu'on va pouvoir étudier dans certains systèmes, notamment les systèmes LFP. Alors, comment ça se passe ? Et bien, lorsque vous allez voir un système LFP, vous avez ici une batterie complète. Alors, je conçois que ce graphe est relativement compliqué. Je vais l'expliquer simplement. Vous avez directement en bleu le potentiel de sortie de votre accumulateur qui va osciller entre 1,8 et 2 volts, et 2,4 volts. Ensuite, en rouge, vous avez directement le potentiel de votre électrode positive qui est 3,5 pour lithium FePO4 versus lithium et qui est aux alentours de, en noir, qui est aux alentours de 1,5, 1,7 pour lithium 4 et 5O12. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, regardez, lorsqu'on va directement passer en surdécharge, à moins 0,5 volts, vous voyez que maintenant, eh bien, ça va être directement la molécule organique qui va prendre tout le courant. De la même façon, si maintenant je vais en surcharge, vous l'apercevez ici, vous avez directement lithium 4 et 5O12, et je vais en surcharge. Maintenant, c'est la navette redox qui va fonctionner en surcharge. D'où vous allez pouvoir directement osciller entre ces régimes de charge et surdécharge. Et ça, ça vous permet, je dirais, d'augmenter la sécurité de ces accumulateurs. Et je répète une fois, cette technique n'est valable que sur des 1850. Vous ne ferez jamais ça sur les batteries de voiture, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il vous faut des courants gigantesques, et dans ce cas, vous allez avoir directement des surchauffes de votre accumulateur, je dirais, très importantes. Donc ça, c'est une approche qu'on peut utiliser, je dirais, en utilisant des additifs, des solvants ou des molécules comme additifs. Il y a également, dans certains cas, on peut utiliser des sels. Et vous avez ici un sel qui a été utilisé, qui est lithium fluorodécaborane, où vous avez ici un dianion. Et lorsque vous allez oxyder, bien dans ce cas, vous allez obtenir un monoanion à aux alentours de 4,5 volts. Ça veut dire qu'une fois de plus, le courant que vous allez mettre, eh bien, il va être directement tamponné par ce sel. Et l'avantage de ce sel, eh bien, c'est que vous allez pouvoir, à l'encontre des solvants que vous avez mentionnés, puisque vous avez des non-stoichiométries en fluor et en hydrogène, vous allez pouvoir ajuster la teneur en fluor et en hydrogène pour directement modifier les potentiels redox. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont ces navettes redox que l'on trouve dans certains systèmes. Alors bien sûr, il y a d'autres mécanismes, d'autres façons d'améliorer la sécurité de ces systèmes. C'est par tout simplement en créant, je dirais, des couches d'isolation. Je m'explique. Si je prends par exemple cette molécule, qui est un isocyanate de bromobenzyl, eh bien, lorsque je vais monter à des potentiels de 4,8-9 volts, je vais avoir dans ce cas une ouverture du cycle je dirais, de carbamatéthylène qui va créer un radical, et ce radical va générer une polymérisation pour vous générer ce film isolant, cet élastomère isolant autour de la particule. Résultat, si vous prenez des mesures, je dirais, des tests au niveau de la sécurité, vous prenez un accumulateur, comme vous pouvez voir ici, avec classique le composé lamellaire du carbone. Vous voyez qu'ici, si je n'ai pas d'additif, eh bien regardez, lorsque je vais surcharger, je vais avoir un emballement thermique. Vous voyez, la température va aller à 400 degrés C avec, si je peux dire, les explosions que je vous ai mentionnées auparavant. Maintenant, si vous utilisez cette astuce de mettre l'additif, eh bien vous voyez qu'en ce cas, regardez, je vais arriver tout simplement à Zamitor de Saint-Bolt. À ce compte-là, je vais directement former ce polymère, cet élastomère, qui va directement m'isoler et faire un isolant, je dirais, électrique. Et par conséquent, eh bien, vous voyez, la température monte à 80 degrés C, et ensuite, votre courant descend sur zéro, c'est-à-dire qu'on a fait directement un switch thermique. D'où ça, c'est les astuces que l'on peut faire. Alors bien sûr, il y a beaucoup de molécules qui peuvent faire ainsi. Je vais par exemple vous en montrer une autre, qui est relativement intéressante. Ça, c'est des molécules d'ioxalane, qui va également générer la même réaction de polymérisation avec la formation d'élastomères, qui dans ce cas, également, vont décroître fortement la conductivité, ce qui fait qu'ils vont bloquer le courant et empêcher cet emballement thermique. D'où cela, ça, il s'agit directement de polymères qu'on va directement créer in situ. Et une autre façon de faire, qui est assez originale, va être tout simplement d'utiliser le séparateur comme, je dirais, boîte à outils pour introduire des molécules. Et dans ce cas, on va introduire cette molécule de polybiphényl, dont vous avez la formule ici. Et à la différence des autres, vous n'allez pas faire une polymérisation, mais par contre, cette molécule, eh bien directement, c'est un polymère conducteur qui va pouvoir devenir conducteur lorsque vous allez l'oxyder et créer directement des trous. Et lorsque vous avez le DOPP, eh bien dans ce cas, il va laisser passer le courant. Ce qui fait que maintenant, vous avez un accumulateur dans lequel, dans le séparateur, eh bien, vous avez ces molécules et qui vont pouvoir, dans ce cas, à des potentiels d'oxydation, eh bien laisser passer le courant, c'est-à-dire vous allez avoir un courant de fuite qui va vous permettre directement de libérer cet excès d'électrons en surcharge. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire au niveau de ces aspects de sécurité. Alors, je vous ai parlé du séparateur et je vais vous en parler plus grandement maintenant, car je dirais que c'est finalement l'élément clé pour la sécurité des accumulateurs que vous utilisez. En effet, ce séparateur, vous le savez, je pense, il a une fonction qui est très importante. C'est tout simplement, il va tout simplement empêcher les contacts électriques entre la positive et la négative. Il doit avoir, bien sûr, une haute mouillabilité. Il doit avoir de bonnes propriétés mécaniques, car vous allez directement, lorsque vous allez fabriquer vos accumulateurs, vous allez utiliser des bandes de séparateurs. Bonne compatibilité chimique, et bien sûr, isolant électronique. Par contre, si vous regardez très bien ici, regardez, vous apercevez qu'il y a une structure bien particulière. Vous apercevez dans ce cas des pores, et on a des pores de 28 nanomètres. Et ces pores vont tout simplement laisser passer directement l'électrolyte, ils vont laisser les ions migrer. Eh bien, que va-t-il se passer? Ça, vous pouvez deviner. C'est que maintenant, si jamais j'ai un problème dans mon accumulateur, eh bien, une augmentation de température, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à des températures de 120-130 degrés, eh bien, tout ça va se fermer et ça va directement jouer le rôle de switch thermique une fois de plus. Et c'est la raison pour laquelle on peut utiliser dans ce cas des polyolphines, du polypropylène ou alors du polyéthylène. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut avoir des températures différentes. Eh bien, toute l'astuce ici, ça va être directement de créer des hétérostructures de séparateurs de façon à pouvoir contrôler, je dirais, ces températures supérieures pour maîtriser cet emballement thermique. Et ce qui se fait couramment aujourd'hui dans les accumulateurs commerciaux que vous achetez, vous n'allez jamais trouver soit du polypropylène, soit du polyéthylène. Vous allez trouver directement ces hétérostructures qui sont du polypropylène, polyéthylène, propolypropylène, pour avoir directement cette protection aux entours de 50 degrés C. Et alors, si vous voyez cela, eh bien, on est en train de parler de polymères, et vous savez que ces polymères, si je les chauffe, eh bien, il y en a certains directement qui vont directement commencer directement à fondre et, je dirais, avoir un système de perte. Ce qui fait que vous n'allez pas, finalement, complètement avoir une isolation électrique et vous pouvez avoir des courts-circuits. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on a modifié, ou les chercheurs ont modifié ces séparateurs de façon à, je dis, excusez-moi, voilà, excusez-moi, il y a le slide qui est arrivé. Voilà. Voilà. Alors, voilà directement ce qui se passe en séparateur. vous avez le comportement en court-circuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un comportement en court-circuit? J'ai mon accumulateur, je vais directement connecter la positive et la négative, et vous avez une grosse quantité au courant. Vous voyez par ce pic rouge. Automatiquement, dans ce cas, vous voyez, la température monte, et vous arrivez à la température de 120-130 degrés que j'ai mentionné, le séparateur se ferme, et dans ce cas, eh bien, votre température décroît et le courant décroît. La même façon, maintenant, si je fais une surcharge, ça veut dire que je charge mon accumulateur à 5-6 volts, eh bien, là aussi, vous allez pousser cet emballement thermique et vous arrivez là à une température pareille de 80 degrés. Et vous voyez là, la rapidité à laquelle cela se passe. Et ensuite, le séparateur directement peut se fermer. Mais la difficulté que je mentionnais en ce cas, c'est que eh bien, ces séparateurs deviennent fluides et peuvent créer directement ces pertes en courant et tout ça, et ces problèmes de dendrite ou de court-circuit. Alors, c'est la raison pour laquelle, eh bien, au jour d'aujourd'hui, tout ça a été remédié par la fabrication, le développement de séparateurs céramiques. Quelle est l'astuce? Eh bien, dans ce cas, on va utiliser les mêmes hétérostructures de polyolefine avec, à chaque extrême, tout simplement des céramiques. Et ces céramiques vont donner tout simplement beaucoup plus, je dirais, de robustness, de dureté à ces séparateurs, ce qui va permettre directement de ne pas directement s'écouler lors du chauffage. Et là, vous voyez, on obtient définitivement de meilleures performances en termes directement de shutdown de l'accumulateur. Et alors, un avantage, je dirais, de ces couches céramiques, eh bien, c'est qu'elles vont tout simplement vous créer une meilleure SEI à l'électrode positive et à l'électrode négative. D'où là, vous êtes en train directement de regarder les séparateurs que vous avez aujourd'hui dans tous vos accumulateurs. Ce sont des séparateurs céramiques avec, d'un côté, de l'oxyde d'alumine ou alors du corundum NO3, et cela peut changer. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors, des travaux récents vis-à-vis de la sécurité, qui sont relativement, je dirais, assez élégants et spectaculaires, relèvent également de l'utilisation du séparateur comme, je dirais, boîte à outils pour introduire des substances inifuges. Et là, c'est les travaux qui ont été publiés dans Science en 2017, où des chercheurs ont essayé tout simplement de faire des séparateurs à base de fibres, comme vous pouvez voir ici, des fibres qui ont directement le cœur et la gaine, dans lesquelles ils vont introduire une partie inifuge à l'intérieur de la gaine. Et dans ce cas, on va utiliser tout simplement cet inifuge qui est triphényl phosphate. Le principe est indiqué ici, c'est-à-dire que lorsque maintenant je vais chauffer, eh bien directement ma matrice, ma gaine va fondre, et elle va, si je peux dire, relarguer cette substance dans mon accumulateur qui va tout simplement éteindre, je dirais, le feu de cet accumulateur. Alors, pour faire cela, eh bien, on va utiliser des techniques, je dirais, d'électrospinning, où on va faire ces fibres, comme vous pouvez voir indiqué, comme indiqué ici. On va partir des solutions de triphényl phosphate, de polymère PBF-HFP, que l'on va tout simplement dissoudre dans la méthylacétamide acétone. Vous allez obtenir dans ce cas une solution et qu'on va tout simplement injecter à travers ce flux, et vous allez avoir directement la formation de cette structure cœur-couronne. Pourquoi? Parce que les deux matériaux ont des solubilités différentes. Et le PVDF ayant une solubilité moindre que le TPP, eh bien, il va bien sûr cristalliser à la surface et jouera bien sûr dans ce cas le rôle de gaine. Ainsi, on obtient ces fibres qu'on peut utiliser pour faire ces séparateurs, ces tissus de séparateurs. Et vous voyez dans ce cas une fibre avec, effectivement, la matrice PVDF HFP à l'extérieur. Et tout cela peut être confirmé par des mesures, je dirais, de perte en poids. Vous avez ici, en bleu, eh bien, la perte en poids associée au triphényl phosphate, dont le point de fusion est égal à 230-45 degrés. Et ensuite, vous voyez directement le PVDF HFP et vous voyez que maintenant, si je prends le matériau, eh bien, j'ai la composante des deux substances, qui est le TPP et le PVDF-HFP. Ce qui vous montre finalement qu'on a bien, dans les mêmes fibres, les deux matériaux avec le cœur et la gaine. Donc, si on regarde comment cela fonctionne, eh bien, on peut regarder encore, je dirais, des variations de chaleur thermique. Vous voyez directement le melting point, ou le putain de point de fusion TPP qui est à 50 degrés. Et vous voyez que maintenant, le PVDF à 150 degrés, et si je vais plus haut, eh bien, je suis en train directement de relarguer, dans ce cas, le triphényl phosphate. Et vous voyez d'ailleurs les gouttes sur la surface. Et ça, je peux tout simplement maintenant nettoyer ce film et faire des mesures de UV. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, l'électrode vierge, vous n'avez aucun signal par UV, alors que vous apercevez dans ce cas, dans l'électrolyte ECDMC, dans lequel vous avez directement injecté le TPP, et vous apercevez tout simplement les signatures UV de ce triphénylphosphate. Donc voilà, si vous voulez, ce que vous pouvez faire en chauffant. Alors, qu'est-ce que ça vous donne au niveau, finalement, inflammabilité ? Eh bien, vous voyez ici le test. Vous voyez, en ce cas, vous allumez directement cet électrolyte. Eh bien, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, en ce cas, passer à température de 150 degrés, relarguer le TPP qui va directement vous éteindre, directement le feu de l'accumulateur. Et cela se fait en des temps relativement courts, de 0,4 à 0,5 secondes. Donc, vous pouvez voir directement l'efficacité d'utiliser cette structure pour améliorer la sécurité de vos accumulateurs. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire en ce qui concerne les additifs pour améliorer ces tests de sécurité. Maintenant, ce que je voudrais voir ou vous montrer, eh bien, c'est comment on va pouvoir jouer sur l'électrolyte pour finalement encore améliorer ce facteur sécurité. Et pour ce faire, eh bien, on va changer de type d'électrolyte et on va passer sur une autre classe d'électrolytes qu'on va appeler, dans ce cas, les électrolytes liquides ioniques. Et on va voir un peu que sont ces électrolytes liquides ioniques et surtout comment on va les mettre en forme en passant, si je peux dire, aux ionogels qui vont nous permettre de créer des membranes et de construire des accumulateurs, voire des abatteries, même des supercondensateurs. Alors tout d'abord, ici, je vous rappellerai ce qu'est un liquide ionique. Bon, les liquides ioniques n'ont rien de nouveau, hein, puisqu'ils ont été découverts par Paul Walden en 1914. Et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? Eh bien, tout simplement, ce sont des substances qui sont faites d'anions et cations, principalement organiques, et qui ont la propriété d'être liquides à température ambiante, par contraste, je dirais, au sel de cuisine, comme NaCl, qui, lui, est solide. Alors, quelle est vraiment la différence entre ces cristaux ioniques, si je peux dire, et ces liquides ioniques? Eh bien, dans le cas des cristaux ioniques, eh bien, on a dans ce cas, je dirais, des anions symétriques, des cations symétriques, alors que dans les liquides ioniques, on va voir par la suite, vous verrez, on peut avoir des anions symétriques, mais la plupart du temps, ces cations vont être dissymétriques, et ils vont être volumineux, ce qui fait que les forces d'interaction coulombienne vont être relativement moindres dans ces liquides ioniques. Alors, ces liquides ioniques, eh bien, ils ont des particuliers, des propriétés bien particulières. On peut, dans ce cas, les lister. Ce qui est très important, au niveau de sécurité, c'est qu'ils n'ont pas de tension de vapeur. Ils sont ininflammables. Et on verra par la suite. Ils sont également, ça peut être de très bons solvants pour des polymères et des sels. Une stabilité thermique, je dirais, presque à toute épreuve. Vous pouvez voir qu'on va ici directement de 300 degrés à 500 degrés C. Et de plus, il y a une quantité, je dirais, innombrable de liquide ionique, puisqu'il y a une variété innombrable de cations et d'anions, et vous pouvez faire, je dirais, autant de mariages que vous voulez. Et enfin, on peut les recycler par voie organique. Par contre, une difficulté, eh bien, c'est que, d'abord, ils sont relativement chers, et de plus, ils ont des faibles conductivités, dues, bien sûr, au volume des cations et des anions, et rappelez-vous, de la définition que je vous avais donnée sur les connectivités et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a ces liquides ioniques, on peut se poser plusieurs questions. Finalement, pourquoi ont-ils un si bas point de fusion ? Eh bien, ce si bas point de fusion, on peut l'expliquer par des interactions, je dirais, très faibles, dans lesquelles on a, je répète, des ions, je dirais, monochargés et avec des charges très délocalisées. Et de plus, eh bien, il y a une entropie de cristallisation qui est relativement forte, due à la symétrie de ces liquides ioniques et aux molécules flexibles qui forment à partir des cations et des anions. Et c'est ça, finalement, qui vous donne ces bas points de fusion. Alors, il y a toute une variété de cations et d'anions, d'où toute une variété de liquides ioniques, et ceux qu'on utilise le plus dans le domaine des batteries, eh bien, je les ai, je peux dire, mentionnés ici, en termes des cations. On verra les ammoniums, on verra les phosphoniums, les sulfoniums, et spécialement les pyridiniums, imidazolium et pyrolidinium. C'est vraiment aujourd'hui ces deux types d'anions qu'on va discuter et qu'on va commenter. Au niveau, eh bien, des cations, excusez-moi. Au niveau des anions, eh bien, on aura dans ce cas des anions qu'on a déjà vus, Bf6-, Bf4-, mais on aura également ces trifluorosulfonimides, dont la formule est indiquée ici, fluorosulfonimide et également des triflates, ainsi de suite. D'où, voilà, si vous voulez, les différents cations et anions avec lesquels on va travailler. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est la complexité, finalement, de ces liquides ioniques, puisque, au contraire des solvants, vous avez simplement une simple composition. Dans un liquide ionique, vous allez avoir le cation et l'anion, et chacun va avoir directement des compositions ou des propriétés indépendantes. D'où il va falloir trouver les moyens de le caractériser. Et pour caractériser cela, eh bien, on va falloir s'intéresser à certaines de leurs propriétés, et je dirais notamment ce qu'est le degré d'ionicité de ces liquides ioniques. Alors pour faire cela, eh bien, on va tout simplement classifier ces cations et ces anions en termes, je dirais, de basicité et d'acidité de Lewis. Et on va pouvoir avoir ce schéma que je reprends ici. Vous prenez directement le lithium. Vous savez tous que le lithium est un acide beaucoup plus fort de Lewis que le sodium, potassium, et ainsi de suite. Et de la même façon, au niveau, je dirais, des halogénures, et vous allez maintenant sur les fameux composés que je mentionnais avec TFSI, et ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, on a finalement une classification dans laquelle on va pouvoir considérer tout d'abord le cas où le cation et l'anion vont être des acides et des bases de Lewis relativement fortes. Et on est dans ce cas dans le cristal ionique, où vous allez avoir une énergie de décomposition. Et bien sûr, vous pourrez directement mettre en solution de tels cristaux ioniques que grâce à des solvants à haute constante électrique, avec chaque fois, bien sûr, une sphère de sorbatation. Par contre, maintenant, si vous prenez le cas, je dirais, l'extrême, numéro 4, où vous avez finalement de faibles, des cations et des anions de faible et acidité et basicité de Lewis, eh bien, on tombe dans le cas des liquides ioniques, où vous avez une dissociation sans nécessité de solvatation. Et cela se comporte finalement comme des ions solvatés. Donc voilà, si vous voulez. Et ensuite, bien sûr, vous avez ces différents triangles, je reprends ici, les classifiés, qui sont classifiés en 2 et 3, où on a également, je dirais, une dissociation relativement forte. Alors, pour poursuivre dans cette classification, et pour poursuivre dans cette caractérisation de ces liquides ioniques, il faut en déterminer l'ionicité. Et cette ionicité, eh bien, on va pouvoir la déterminer à partir des mesures de conductivité ionique. En effet, cette conductivité ionique dans les liquides, eh bien, elle est contrôlée par la loi de Walden, dans laquelle le produit de la conductivité par la viscosité est égal à une constante. Ça veut dire que la conductivité varie à l'inverse de la viscosité. Et vous avez ici, sur ce diagramme, la diagonale qui représente le cas idéal d'un sel, qui est le sel le chlorure de potassium, dans lequel vous avez directement des cations et des anions qui sont parfaitement séparés. Donc tout écart des liquides ioniques par rapport à cette droite, eh bien, va permettre de classer ces liquides ioniques en domaine de bon liquide ionique, mauvais liquide ionique ou liquide non ionique. Ça veut dire que dans ce cas, tout écart eh bien, indique tout simplement qu'on n'est tout simplement pas un état de dissociation complet. Et pour comprendre, pour distinguer ou pour avoir ce degré de dissociation, eh bien, il va falloir directement distinguer entre des ions chargés, des paires d'ions ou des agrégats d'ions. Et cela, eh bien, on peut le déterminer par des mesures d'impédance qui vont vous donner, dans ce cas, sous l'application d'un champ électrique, vous allez mesurer les espèces qui ont migré, c'est-à-dire qui vont être chargées, et on va comparer ça à des mesures de RMN, où, dans ce cas, on va pouvoir analyser toutes les particules, tous les agrégats, qu'ils soient chargés ou pas chargés. Et en faisant cela, eh bien, on arrive finalement à ce degré de dissociation, ou ce degré d'ionicité, pour ces différents types de molécules, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il faut voir ou ce qu'il faut savoir dans le cas de ces liquides ioniques. Alors maintenant, au niveau des propriétés, eh bien, ils ont également une large fenêtre potentielle. Vous voyez ici, pour différents liquides ioniques que je vous ai mentionnés, l'éthylimide d'amazolium avec le fluorosulfonimide, et vous voyez qu'on peut avoir atteindre, je dirais, des fenêtres de potentiel de stabilité qui sont supérieures aux alentours de 5 volts. Avec chaque fois, toujours pareil, c'est l'anion qui limite la stabilité en oxydation, alors que le cation va limiter en réduction. Et à ce jour, je dirais, les deux mélanges qui sont les plus utilisés, eh bien, sont ceux indiqués ici. C'est éthylimidazolium fluorosulfimide, dont les propriétés sont indiquées ici, et également le pyropyrolidium FSI, comme indiqué ici. Mais dans ce cas, les liquides ioniques, eh bien, ils ont toujours, je dirais, une conductivité qui est légèrement inférieure au cas des liquides classiques. Mais par contre, bien l'avantage, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun des accumulateurs commerciaux qui utilise des liquides ioniques purs. Par contre, certains utilisent des liquides ioniques, notamment pour des applications haute température. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez introduire du liquide ionique dans les électrolytes classiques, eh bien vous allez voir que là aussi, eh bien, vous voyez qu'un électrolyte classique est très inflammable. Vous mettez 40% de liquide ionique, eh bien, vous avez une inflammabilité totale. Ça veut dire, une fois de plus, vous voyez le caractère, si je peux dire, ignifuge de ce liquide ionique. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, ils sont utilisés dans certaines applications. Alors bien sûr, ces liquides ioniques présentent des avantages, mais encore plus d'avantages si on peut finalement les assembler ou en faire des membranes. Et c'est ça qui va me conduire à la partie, je dirais, des ionogels. C'est-à-dire, les ionogels, eh bien, on va tout simplement, dans ce cas, prendre un liquide ionique et essayer finalement de l'insérer dans une matrice qui va être une matrice organique ou une matrice inorganique. Et pour ce faire, eh bien, on va, comme mentionné ici, partir de ce liquide ionique dont je vous ai mentionné, je répète ici, les différents avantages, et qu'on va tout simplement insérer, piéger dans une matrice solide pour obtenir ces genres de films comme indiqué ici. Et lorsqu'on va faire tout cela, eh bien on va tout simplement avoir un réseau de percolation, mais on ne va pas perdre les propriétés du liquide ionique. Eh bien, grâce à cela, on va obtenir différents ionogels qui vont avoir des applications, je dirais, importantes dans différents domaines, notamment le domaine, je dirais, avec de l'optique, où on aura dans ce cas des gels organiques, on va avoir des gels inorganiques, dont on va avoir par la suite, voire des gels hybrides. D'où, si vous voulez, voilà un peu ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine, au niveau du laboratoire. Alors, à partir de cela, eh bien, on va pouvoir préparer ces gels, et puisqu'on parle de gels, on va utiliser des méthodes classiques, des méthodes sol-gel, si je peux dire, où on va utiliser, bien sûr, à partir de la silice, eh bien, on va tout simplement utiliser le TEMOS, qui est une molécule tétraméthylorthosilane, qu'on va mélanger avec le liquide ionique. On va utiliser un initiateur qui va être l'acide formique pour avoir ces réactions de poulie de condensation et pour former ces gels. Et ces gels, eh bien, comme vous le voyez ici, vous avez, je dirais, une photo agrandie. Vous voyez qu'en ce cas, il y a une porosité, je dirais, relativement importante. Et dans ce cas, on est en train de regarder des porosités de, je dirais, de 10 à 15, voire 20 nanomètres. D'où, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en ce cas, le liquide est parfaitement confiné dans ce réseau poreux 3D. Alors bien sûr, plutôt qu'avoir des monolithes, on veut passer à des membranes, c'est-à-dire qu'on veut introduire de la flexibilité dans ces ionogels. Et pour cela, on va le faire grâce à, de nouveau, des réactions de gel ou de polycondensation, comme indiqué ici. Avec, dans ce cas, l'astuce, vous voyez, on a toujours notre liquide ionique, on a toujours notre TEMOS, mais par contre, on va utiliser directement cette molécule, qui est un diméthoxylane. Et vous voyez qu'en ce cas, regardez, eh bien, je vais tout simplement avoir deux parties parfaitement hydrophobes, c'est-à-dire que je vais augmenter l'hydrophobicité, mais vous voyez que maintenant, je n'ai plus que deux sites pour faire ma polycondensation. C'est-à-dire que maintenant, je vais orienter la condensation, la formation de ces gels, et par conséquent, pour avoir des, je dirais, des membranes flexibles. Et effectivement, grâce à cela, on peut obtenir des membranes transparentes, flexibles, qui peuvent être utilisées dans, je dirais, pour la fabrication de supercondensateurs, voire de séparateurs, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces différents ionogènes. Alors, quelles sont les propriétés ? Qu'en advient-il, finalement, des mesures de conductivité ? Et je vous trace ici les variations de conductivité pour ces différents matériaux. Vous avez la conductivité en fonction de 1 sur T ou 1 sur T. Et vous voyez que ce qu'il faut voir avec le liquide ionique, ça, c'est des matériaux tout solides. Et je veux directement que vous regardiez bien ici. Vous voyez, si je regarde finalement dans le cas eh bien, du ionogel SiO2, vous voyez que je peux descendre tout simplement en température sans avoir directement cette transformation liquide-solide. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train de regarder quel va être l'effet de confinement sur la transition solide-liquide dans ces ionogènes. Et vous voyez maintenant, si je prends maintenant le doigt, vous voyez directement cette chute en température. Eh bien, si je vais maintenant avec mon ionogel, j'ai tout simplement modifié cette chute en température. Et on reviendra sur une courbe de ce type un peu plus tard. Tout cela peut vous dire eh bien, que tout simplement, on peut, dans ce cas, déplacer la transition liquide-solide par ce problème de confinement. Et finalement, on peut, grâce à ces techniques, mais obtenir des ions gels qui ont des conductivités ioniques, on peut le voir ici, qui ne sont pas tellement loin de celles des liquides, qui sont indiquées ici par ce, je dirais, cette diagramme bleu. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors ensuite, on peut encore compliquer ou élargir cette richesse des matériaux, où maintenant, on va pouvoir combiner non seulement un liquide ionique avec une matrice inorganique qui va être la silice, mais également avec un polymère. Et ça, c'est des travaux récents qui ont été faits sur de telles matrices où, vous voyez maintenant les ingrédients de départ, vous avez directement ce copolymère, comme indiqué ici, qu'on va mélanger du Teos avec le liquide ionique. Et on va obtenir toutes ces différentes sortes de matrices dans lesquelles, regardez, ce qui va être important, c'est qu'on va changer tout simplement la masse du polymère, qui est le premier chiffre ici, la masse de la silice, qui est le deuxième chiffre, et la masse de l'électrolyte. Et on va directement, dans ce cas, avoir des réseaux de plus en plus percolants au niveau de la teneur en silice et CO2. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en tout ça? Bien, si on mesure les conductivités ioniques, comme je vous l'ai mentionné auparavant, bien, ce qui est intéressant, c'est que si on prend quand même l'électrolyte classique qui est non confiné, c'est là où vous avez la meilleure conductivité. Par contre, vous apercevez que lorsqu'on fait des matrices, ce qui n'est pas une surprise finalement, c'est-à-dire qu'on va avoir une conductivité qui se rapprochera le plus directement de celle non confinée en augmentant la quantité d'électrolyte. Vous voyez qu'ici, si je monte 85, 75, 74, eh bien, je vais avoir baissé la conductivité ionique pour la bonne et simple raison, c'est que je vais avoir moins directement de liquide ionique à l'intérieur. Également, on peut voir la température liquide solide qui va se déplacer une fois de plus. Eh bien, elle se déplacera d'autant plus qu'on aura un rapport du réseau confinant au liquide ionique important. C'est-à-dire qu'on aura une plus grande surface et avec des pores de 9 à 10 nanomètres, eh bien, on arrive directement à shifter totalement cette transition, je dirais, liquide-solide. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec ça. Alors bien sûr, la question, c'est maintenant, pourquoi faire tout ça? Eh bien, je vais vous montrer comment on peut assembler, grâce à ces ionogels, des accumulateurs et également des supercondensateurs. Alors, si je regarde au niveau des accumulateurs, vous êtes en train ici de regarder le comportement d'une batterie LiFePO4 vis-à-vis du lithium en utilisant les différents types de membranes que j'ai mentionnées auparavant. Et vous voyez, regardez, si je prends maintenant une membrane qui est très riche en polymère, très faible en silice, eh bien, dans ce cas, voilà la morphologie. Mais regardez les propriétés électrochimiques. Je trace ici la capacité en fonction du nombre de cycles. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, vous avez un fonctionnement médiocre. Si maintenant, eh bien, je vais augmenter la quantité de silice, je passe de 3 à 25, en maintenant la quantité d'électrolyte, eh bien, vous augmentez, vous améliorez déjà vos performances, et je dirais, les meilleurs résultats sont obtenus avec ce rapport 75-25 et, une fois de plus, des quantités d'électrolyte relativement considérables. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à ce niveau avec ces ionogènes. Alors, dans le cas des supercondensateurs, on peut appliquer, je dirais, la même méthode. Vous allez voir comment on peut construire un supercondensateur basé, une fois de plus, sur ces ionogènes. Alors, pour ce faire, on va tout simplement utiliser un moule plastique dans lequel on va aller couler ce ionogène. Et vous voyez qu'en ce cas, on va avoir tout d'abord le dépôt de carbone, on va faire notre film carbone, sur lequel on va aller maintenant injecter la solution que j'ai mentionnée, plus, dans ce cas, le liquide ionique. Et on va obtenir, vous pouvez voir, cette couche verte qui va être directement ce fameux ionogel. Et ce ionogel va directement s'imprégner dans la matrice carbonée et vous allez avoir finalement un continuum de ionogel sur cette électrode. Vous répétez la même expérience avec l'autre électrode et ensuite vous assemblez les deux, vous obtenez directement cette configuration pour vous conduire au supercondensateur qui est indiqué ici, dont, après séchage, vous avez une épaisseur d'environ 200 microns. Et vous pouvez voir, en ce cas, on voit très bien cette coupe en microscopie, la partie ionogel, et vous voyez l'imprégnation du film de carbone activé avec l'ionogel. Et cela vous donne des performances, je dirais, relativement intéressantes au niveau du supercondensateur sur un vaste domaine de température, puisqu'on peut aller jusqu'à moins 40 degrés C, dû au fait qu'on ait pris ici une technique comme indiqué. Et cela sur le facteur potentiel de 3 volts. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec les ionogels et les liquides ioniques. ça vous donne à peu près un aperçu. Et je voudrais juste terminer sur cette partie UnoGel pour partager avec vous, je dirais, une dernière innovation dans le domaine, c'est dans lequel certains chercheurs eh bien, sont allés encore plus loin et ont essayé finalement de faire de la chimie avec ces UnoGel et de les fonctionnaliser. C'est-à-dire, un UnoGel est un électrolyte. Depuis le début, je vous ai mentionné qu'un électrolyte ne participe pas à l'électrochimie. Eh bien, certains chercheurs, notamment un groupe de Montpellier, ont réussi directement à fonctionnaliser ces UnoGel. C'est-à-dire qu'en ce cas, ils ont obtenu des UnoGel ou des liquides ioniques biredox. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, ils ont tout simplement attaché à mon cation, qui est dans ce cas midazolium, eh bien, un groupe accepteur, qui dans ce cas va être une molécule tempo, comme vous pouvez voir ici, pour former directement cette entité. Ils ont également fait la même chose, bien sûr, pour l'anion, où dans ce cas, eh bien, ils ont bien simplement attaché un groupe donneur à, dans ce cas, le TFSI, le trisulfate. Vous voyez qu'en ce cas, ils ont acheté, dans ce cas, ils ont attaché un groupe anthraquinone pour obtenir directement ce biredox. Et ça veut dire que maintenant, eh bien, je vais avoir un électrolyte qui va avoir double fonction. Il va pouvoir participer à la conduction ionique et également donner, je dirais, de la capacité associée aux réactions redox qui peuvent avoir lieu directement sur ces deux côtés. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, voilà un condensateur. Ce condensateur que vous voyez ici, je vais le polariser positivement. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, les anions vont aller à l'électrode positive et les cations vont aller à l'électrode négative. Et je vais obtenir la capacitance nécessaire, ce qui est perdu à l'interface. Maintenant, je vais rajouter dans cette sauce mon additif qui va être le biredox. Et lorsque je vais faire ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez que maintenant, je vais avoir mes entités de cette partie biredox qui vont aller dans les électrodes positives et négatives et qui vont maintenant participer à l'augmentation électrochimique, c'est-à-dire à la réactivité. Ça veut dire que grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir directement doubler la capacitance de ce supercondensateur. Alors bien sûr, vous voyez qu'ici, il n'y a seulement que les espèces qui vont se trouver dans cette électrode qui vont directement fonctionner. Si on regardait une batterie, eh bien, en ce cas, on utiliserait bien sûr l'électrode complète. Ça veut dire qu'à ce jour, eh bien, on peut, du moins au niveau du supercondensateur, prendre avantage de cet aspect, je dirais, réactif de ces composés ou de ces liquides ioniques biredox. Et on peut doubler la capacitance est passée, je dirais, aux alentours de 100 microfarads par gramme à 200 microfarads par gramme. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur tout ce qui est les liquides ioniques et les ionogènes. Et enfin, je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui sur un troisième exemple, qui est un exemple relativement récent. C'est encore un papier de science qui est sorti en 2017, où, certainement, ça peut être un exemple pour montrer la sécurité des accumulateurs, mais je pense que cette étude est relativement intéressante pour vous rappeler les bases fondamentales de la détection, de la détermination des électrolytes. Et bien dans ce cas, on va parler d'électrolytes de gaz liquéfié. C'est-à-dire qu'on va prendre un gaz et on va essayer d'en faire un électrolyte pour utiliser dans un accumulateur et voir ce que ça donne. Alors vous avez une photo simplifiée de ce qui peut se passer. Vous avez un gaz, vous allez par des méthodes de compression ou par des pressions autogènes bien générer un liquide. Eh bien pour cela, on va utiliser, je dirais, des molécules relativement simples. Si je regarde par exemple la molécule dichloroéthane, vous voyez que la constante électrique est de 8,9 et la température d'ébullition est de 40 degrés C. Le difluorométhane, la même constante électrique est à moins 50 degrés C. Donc par conséquent, des chercheurs du Texas ont décidé de regarder ces composés et de voir si on ne pouvait pas liquéfier ce difluorométhane et l'utiliser comme électrolyte. Alors là aussi, si vous voulez, ce n'est pas, je dirais, une nouveauté au niveau d'utiliser de tels matériaux ou de tels gaz liquéfiés pour faire des réactions chimiques, puisque, en tant que chimiste, ça fait bien longtemps qu'on utilise la réaction qui est très simple, c'est la réaction de l'ammoniac liquide. Vous savez tous que l'ammoniac liquide peut solvater le lithium, et on s'en sert pour, avec le dispositif indiqué ici, eh bien, pour avoir des réactions d'insertion à des potentiels relativement bas, aux alentours de 0 volts. Ce qui fait que ce que vous faites ici, vous prenez de l'ammoniac gazeux, vous allez directement refroidir un récipient, vous allez directement condenser cet ammoniac, vous mettez du lithium à l'intérieur, vous faites de la réaction à l'état liquide, et ensuite, bien sûr, l'avantage, c'est que lorsque vous voulez récupérer votre produit, dans ce cas, il suffit tout simplement d'évaporer ce liquide. Donc voilà, si vous voulez, ce que on va regarder. Alors bien sûr, maintenant, on est en train de passer dans notre domaine, on va utiliser, on va regarder toutes les molécules du fluorocarboné, et on va tout d'abord voir quels sont les avantages. Et bien sûr, comme j'ai fait depuis tout le début, chaque fois j'ai utilisé ce graphe, il va revenir une fois de plus, dans lequel vous avez l'importance de ces orbitales frontières pour déterminer le domaine de stabilité de votre électrolyte, avec bien sûr l'écart qui représente la formation de SCI. Eh bien, on peut, et les chercheurs ont fait, par des calculs DFT, ils ont tout simplement établi quels étaient les orbitales LUMO et HOMO pour cette nouvelle catégorie de composés fluorocarbonés, et ils ont comparé aux composés carbonates qu'on avait utilisés auparavant, comme l'éthylène carbonate ou le propylène carbonate. Et lorsque vous avez les résultats, vous voyez ici le potentiel. Vous voyez directement les LUMO et les HOMO de ces différents matériaux, de ces différents solvants. Voilà directement en rouge et noir les carbonates qu'on utilisait auparavant. Et voilà tout simplement en vert et en bleu, eh bien, quels sont finalement les nouvelles LUMO et HOMO pour ces composés. Avec ici, vous verrez pourquoi par la suite, le CO2. Eh bien, vous voyez finalement que lorsqu'on va passer à ces électrolytes liquéfiés, eh bien, on va pouvoir élargir notre domaine au potentiel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gagner en potentiel tout en minimisant les réactions secondaires qui vont conduire à la SCI. Donc ça, c'est très important. Alors, ayant fait cela, bien sûr, il faut savoir lequel on va utiliser. Eh bien, les chercheurs ont utilisé directement le fluorométhane et le difluorométhane, et on va voir pourquoi. Alors, que se passe-t-il et quelles sont les pressions? Et si on regarde sur une échelle de pression en fonction de la température, et je vous mentionne ici, finalement, les domaines liquides de ces différents électrolytes ou différents solvants. Vous voyez ici les pressions de vapeur avec des domaines liquides qui s'étendent finalement de moins 120 à moins 40. Mais bien sûr, on peut élargir ce domaine de liquide et vous avez des pressions, comme vous pouvez voir ici, qui sont des pressions quand même relativement larges, aux alentours de 5 mégabars et ainsi de suite. Mais ça, finalement, si vous regardez ces pressions, elles sont inférieures aux pressions que vous avez dans les véhicules électriques basés sur le gaz naturel, vous avez du 24 mégapascal. Et ce qu'on peut faire, là, c'est-à-dire qu'on va prendre des récipients et on va directement introduire ces gaz et automatiquement, par simple pression autogène, on va pouvoir, dans ce cas, créer des liquides, je dirais, à des températures de 15 à 20 degrés et même aller directement au-delà des points supercritiques, qui sont assez intéressants, puisqu'à ces points supercritiques, vous n'avez plus aucune tension de surface, ce qui fait que vous avez une mouillabilité gigantesque. D'où voilà. Alors la question qu'on peut se poser, finalement, c'est bien beau. Maintenant, qu'en est-il en termes de conductivité? Alors la conductivité, je vous ai dit, c'est le produit ou la constante électrique par la viscosité. Il y a cette fameuse ambivalence. Et ici, vous avez un graphe qui va vous montrer directement un résumé de toutes ces valeurs. Alors je vais aller lentement. Vous avez tout d'abord la constante électrique. Vous savez que la constante électrique est très importante dans le cas du carbonate éthylène ou carbonate propylène. Et par contre, dans ces solvants liquéfiés, vous voyez, elle est relativement, je dirais, faible. Par contre, vous savez que la viscosité est très importante, car c'est une faible viscosité qui va vous donner cette conductivité. Et là, je dirais, ces solvants liquéfiés, ils sont imbattables au niveau, finalement, de viscosité. Ce qui fait que si on regarde, finalement, comme vous pouvez voir ici, le rapport, le produit epsilon R par N-1, vous apercevez directement l'avantage de ces solvants liquéfiés par rapport aux solvants liquides. Ça veut dire que finalement, on ne va pas être limité en termes de conductivité. Mais faut-il qu'on arrive directement à dissoudre les différents sels? Et si on regarde comment ces conductivités varient eh bien, en fonction de la température, eh bien, je vous ai mentionné cela ici sur ce graphe, vous avez la conductivité en fonction de la température, où on va voir trois régions différentes, alors que dans les électrolytes classiques, on avait deux régions. La région à plus basse température, qui est une région classique, c'est-à-dire qu'on va augmenter la température, on a tout simplement une augmentation de la conductivité due à la diminution de la viscosité. Ensuite, eh bien, on va passer par un maximum. Rappelez-vous, lorsqu'on avait vu un électrolyte liquide, ce maximum provenait tout simplement de l'agrégation des différents ions qui formaient des paires et qui ne participaient plus. C'est exactement la même chose. Et enfin, un point supplémentaire ici, où on a une remontée de la conductivité due au fait, ou je dirais un effet d'expansion en volume, c'est-à-dire que les cellules deviennent directement tout occupé par le liquide, et là, une augmentation gigantesque de la pression qui va conduire à cette conductivité. Donc voilà, si vous voulez, quelles sont les propriétés. Alors là aussi, eh bien, on va voir quelles sont les applications et quels sont les avantages. Alors au niveau des applications, eh bien, on va d'abord voir au niveau des supercondensateurs. Et ce qu'on voit ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, je dirais, des supercondensateurs classiques avec l'électrolyte classique, qui est aujourd'hui l'acétonitrile et TA, tétraéthanion BF4, et on va le comparer directement avec la même dans le difluorométhane. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si on regarde les courbes, ici je trace la capacitance en fonction du nombre de cyclages, et vous apercevez qu'on a, dans le cas de l'électrolyte différent, on a la même capacitance. Par contre, regardez ici au niveau de la résistance, eh bien, vous voyez que dans le cas de l'acétonitrile, eh lorsque je vais me déplacer vers de basses températures, j'ai une résistance qui augmente, alors que dans le cas eh bien, de ces électrolytes liquéfiés, eh bien, on a une diminution de résistance. Donc ça montre, je dirais, un aspect positif de ces électrolytes liquéfiés. Et un autre aspect, eh bien, si je peux dire, c'est l'autodécharge. Et voilà l'autodécharge de ces accumulateurs pour les électrolytes liquéfiés à 65 degrés et excusez-moi à 65 degrés en rouge et moins 60 degrés en bleu. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une performance qui est nettement meilleure par rapport tout simplement à l'acétonitrile. D'où tout cela. Eh bien, ça vous montre directement qu'on peut utiliser de tels systèmes pour avoir des performances sur large domaine de température et également avoir un gain, je dirais, de densité d'énergie. Pour la bonne et simple raison, c'est que puisqu'on a élargi la fenêtre potentielle, eh bien, on peut travailler avec des fenêtres de potentiel plus larges, c'est-à-dire 300 millivolts supérieurs. Il y en a des augmentations de 23%. Qu'en est-il maintenant, je dirais, des propriétés pour les électrolytes pour batterie? Et c'est là qu'une difficulté va se présenter, même deux, je dirais. C'est que si on regarde maintenant le cas des électrolytes pour batterie, eh bien, il y a beaucoup de sels qui ne peuvent pas être dissous, dans ces électrolytes liquéfiés. Pour la bonne et simple raison, je vous l'ai mentionné, les constantes électriques sont faibles et vous ne pourrez pas directement dissoudre LiPF6 dans ces électrolytes. Et c'est pour cela qu'on va avoir recours à des solutions de lithium TFSI, comme indiqué ici, avec des concentrations relativement faibles de 0,1 à 0,2 m. Et dans ce cas, le meilleur se trouve être le fluorométhane avec, vous avez des conductivités supérieures à 1 millisiemens de moins 60 à plus 10 degrés C. Okay. Et pour comparaison, vous avez dans ce cas des électrolytes liquides, c'est à 0,6. Mais à température ambiante, vous avez des valeurs supérieures. Donc voilà directement ce qui se passe. Alors, un autre problème majeur, je dirais, dans l'utilisation de ces électrolytes, est leur réactivité vis-à-vis du lithium. Et que se passe-t-il? C'est que maintenant, vous prenez directement une molécule fluorocarbonée, vous la mettez directement en face du lithium, et vous allez obtenir LIF plus radical, et LIF directement va vous bloquer cette réactivité, c'est-à-dire que vous allez créer une interface bloquante. D'où par conséquent, eh bien, il faut, dans ce cas, remédier à ce problème. Alors, comment remédier à ce problème? Eh bien, là aussi, on va apprendre pas mal de ce qui s'est passé ou ce qui a été fait dans le passé, ou finalement, des travaux sur les électrolytes liquides, dans lesquels on avait en ce cas, vous voyez, du PC avec l'arsenurofluorure de lithium. Et vous apercevez que l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'efficacité de déposer et de retirer du lithium, était de 50%, et cela dû notamment à cette réactivité avec la formation de LIF. Et ce qu'ont fait les chercheurs, et notamment Doron Orbark, a trouvé finalement qu'un moyen de contrecarrer cette difficulté était tout simplement de rajouter, comme vous pouvez voir aussi, de dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, eh bien, il peut stabiliser l'interface avec la formation, je dirais, in situ de carbonate lithium. Et dans les électrolytes, je dirais, liquides, eh bien, on pouvait aller jusqu'à des solubilités de 0,5%, et cela était relativement satisfaisant. Eh bien, la chance ici, c'est que finalement, il y a également une bonne miscibilité, je dirais, du CO2 dans le fluorométhane. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les chercheurs ont introduit un mélange CO2-fluorométhane pour faire leurs électrolytes. Alors, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, je vais vous montrer effectivement ce qui se passe. Alors, tout d'abord, vous pouvez vous demander comment ils construisent leur accumulateur à cette pression. bien, vous avez simplement une enceinte fermée dans laquelle, bien sûr, vous avez un tube pour aller directement liquéfier le gaz, qui vont liquéfier à moins 60 degrés. Et là, vous voyez, ils mettent leur accumulateur avec le sel à l'intérieur et ils vont liquéfier et à moins 50 degrés, eh bien, automatiquement, ils vont former leur électrolyte. Ensuite, ils ferment et ils vont faire leur mesure. Dans ce cas, vous allez obtenir une efficacité coulombique relativement importante de 97%. Je dirais, on obtient, c'est parfaitement comparable à ce que vous pouvez faire avec les meilleurs électrolytes liquides. Vous regardez ici, alors dans ce cas, j'aurais dû mentionner, on va utiliser dans ce cas une batterie lithium-métal avec simplement, une feuille d'acier. Et on va les déposer, retirer le lithium, et vous voyez directement l'uniformité du dépôt que l'on peut faire à la surface de cette feuille d'acier. D'où cela peut être généralisé à d'autres applications et à faire des accumulateurs complets. Et voilà ici la performance d'un accumulateur qui est basée sur le couple LiCO2-lithium. Vous avez la performance dans le cas de ce liquide, de ce gaz liquéfié, où vous avez des performances, vous pouvez voir ici, jusqu'à moins 40 degrés, moins 40 degrés C, vous avez 94% de, la capacité. Si vous comparez directement dans le cas des électrolytes classiques, un lithium PFS ECDC qu'on a étudié, eh bien, on est dans ce cas aux environs de 86%. D'où vous voyez directement quel peut être l'avantage, au niveau du laboratoire, eh bien, de ce type d'électrolyte. Alors, ils sont stables vis-à-vis des cathodes à 4 volts, et de nouveau, bien sûr, c'est une performance excellente à basse température. D'où, c'est pour vous donner une idée des recherches, un peu folles, qui se font dans ce domaine des électrolytes. Alors, bien sûr, on pourrait regarder ça et se dire, mais bon, ça ne sera jamais appliqué. Bon, ça a été fait à l'Université de Texas, et comme ça s'est fait aux États-Unis, eh bien, il y a déjà une PME qui a été montée. Des accumulateurs ont été faits. Ils ont des boîtiers qui peuvent directement contenir jusqu'à 50 mégapascals. Le nom de la compagnie, vous pouvez taper sur le web, South A Technology, et vous allez voir ce qui se fait. Voilà les performances de l'accumulateur qui ont été rapportées à 25 degrés avec les compositions indiquées ici. Alors je dirais tout ça, personnellement, c'est la recherche intéressante. Je ne pense pas qu'on verra ça, que ça verra le jour dans les différentes applications. Mais c'est pour vous dire un peu la variété des recherches qui se fait aujourd'hui dans le domaine des électrolytes, des additifs et ainsi de suite. Et ça, pour la technologie lithium, j'aurais pu vous faire le même exposé sur la technologie au sodium et ainsi de suite. D'où, d'ailleurs, voilà cet accumulateur, vous voyez, c'est un peu archaïque, vous avez la température et ainsi de suite. Mais pour vous dire directement qu'aux États-Unis, à partir du moment où on fait une découverte intéressante au niveau de la recherche, eh bien, on peut la transformer rapidement, du moins, dans une PME et essayer de commercialiser. Voilà. Sur ce, bien écoutez, je voudrais terminer ce cours en vous remerciant encore une fois pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions...